Vous êtes bien à l'écoute de RFI, il est 13h30 à Paris N'Djamena, une heure de moins en temps universel. Et place à l'actualité africaine avec vous, Arthur Ponchelet. Bonjour Arthur.
Bonjour Simon et bonjour à vous qui nous écoutez. Afrique Midi, on est ensemble pendant 30 minutes pour faire le tour de l'actualité du continent. Et on commence avec le journal. À la une, ne l'appelez plus général, mais maréchal. Au Tchad, cérémonie de maréchalisation de Mahamat Idriss Déby cet après-midi au palais présidentiel. Une distinction qui continue, vous l'entendrez, de faire débat dans le pays. Emmanuel Macron en route pour l'Éthiopie. Le président français était à Djibouti ce matin, où il s'est entretenu avec son homologue Ismaïl Omar Guelleh. Ils ont notamment évoqué l'avenir de la base militaire française dans le pays, la plus importante du continent. Au sommaire également, on sera au Burkina, où le gouvernement a adopté cette semaine un projet de loi portant amnistie des personnes condamnées pour le coup d'état manqué de septembre 2015. En RDC, où la mission de la MONUSCO vient d'être renouvelée pour un an de plus. Et puis du sport, on assiste au dernier entraînement des éléphants avant le match contre la sélection burkinabé demain, second tour des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations. Il s'apprête à devenir le deuxième maréchal de l'histoire du Tchad. Mahamat Idriss Déby va recevoir officiellement la plus haute distinction militaire. Ce sera dans l'après-midi au palais présidentiel. Cérémonie de maréchalisation à laquelle l'ensemble des députés et des membres du Conseil national de transition sont conviés, ainsi que quelques invités triés sur le volet. À N'Djamena, la correspondance de Victor Moria.
4 ans après son père, Mahamat Idriss Déby va recevoir officiellement la plus haute distinction de l'armée tchadienne à quelques jours des élections législatives, communales et provinciales qui marqueront la fin de 3 ans de transition. Selon Ali Kolutu Chaimi, l'un des membres du CNT à l'initiative de la proposition, la dignité de maréchal récompense la stabilité apportée par le président à son pays.
Le courage, la responsabilité de notre président, aujourd'hui ont donné que le Tchad est devenu un pays calme, stable, démocratique. Un pays qui a aujourd'hui une nouvelle constitution, un nouveau président élu, mais quelqu'un qui a donné tout à son pays. Ça, ce n'est pas un cadeau. Ce que nous donnons au président Mahamat, c'est un mérite.
Une dignité méritée, donc, selon ses partisans, un signe de basculement vers le totalitarisme pour ses opposants, cite Ayomba Tina Beni, vice-président du Parti des Transformateurs.
Le président actuel est en train de s'inscrire, n'est-ce pas, dans une sorte de monarchisation du pays. On a redouté ça depuis avril 2021. Donc si on continue comme ça, j'ai bien peur, n'est-ce pas, qu'on s'installe complètement dans le totalitarisme.
Dans les rues de N'Djamena, la nouvelle n'est pas accueillie avec autant de méfiance, mais beaucoup se demandent si le moment est bien choisi. La campagne législative peine à démarrer et la situation économique difficile reste au centre des préoccupations. Victor Moria, N'Djamena, RFI.
Suite de la tournée africaine d'Emmanuel Macron, le président français est en route pour l'Éthiopie après une visite à Djibouti. Hier, il a partagé le repas de Noël avec les 1700 soldats français stationnés dans la plus importante base militaire du continent. Une base qui va se réinventer, selon les mots du chef de l'État, comme un point de projection pour des missions en Afrique. Emmanuel Macron s'est entretenu ce matin avec le président de Djibouti, Ismaïl Omar Guelleh. Reportage de notre envoyé spécial, Pierre Firsian.
C'est sous un chaud soleil que le président français a été accueilli ce matin par Ismaïl Omar Guelleh au palais présidentiel. Un accueil au son de la garde républicaine djiboutienne. Les deux hommes se sont ensuite entretenus pendant quelques minutes avant de s'exprimer devant la presse. Ismaïl Omar Guelleh.
Les entretiens que nous venons d'avoir ont porté sur toutes les facettes de nos relations bilatérales, notamment le renouvellement du traité de défense. Je me félicite de cette signature et réitère ici l'attachement profond de notre pays à la préservation et à la promotion de ce partenariat stratégique qui nous lie à la France.
Emmanuel Macron a lui salué ce partenariat avec Djibouti, qui correspond, a-t-il dit, à des intérêts partagés. Les deux hommes ont également évoqué la situation régionale. Nous avons convergé sur l'importance de la mise en œuvre d'un processus de dialogue pour mettre un terme au terrible conflit au Soudan, a déclaré Emmanuel Macron, avant d'évoquer un autre sujet d'importance.
Nous sommes convaincus l'un et l'autre pour les pays de la Corne de l'Afrique de l'importance de dialoguer et de vivre dans le respect de l'intégrité territoriale. Et nous avons à cet égard salué le processus de dialogue qui a avancé de façon décisive entre l'Éthiopie et la Somalie.
J'aurai l'occasion de porter ce message d'apaisement à Addis Abeba dans quelques heures, a ajouté le président français, qui doit rencontrer Abiy Ahmed cet après-midi. Pierre Firsian, Djibouti, RFI.
En bref, en Côte d'Ivoire, cela fait aujourd'hui un an que Tidjane Thiam a pris les rênes du PDCI RDA. Pour célébrer cet anniversaire, le successeur d'Henri Conan Bédier anime un meeting cet après-midi à Abouasso, à une centaine de kilomètres au sud-est d'Abidjan. Selon le porte-parole du parti, Bredoumi Soumaïla, cette rencontre sera l'occasion pour Tidjane Thiam de dresser le bilan de sa première année de leadership et de partager sa vision pour l'avenir du parti et du pays. Cet événement intervient aussi dans un contexte de tensions internes marqué par l'annonce de la candidature de Jean-Louis Billon, député PDCI, à la présidentielle de 2025. Ce dernier a d'ailleurs été convoqué par le conseil de discipline du parti. Au Burkina Faso, le gouvernement a adopté cette semaine un projet de loi portant amnistie des personnes condamnées dans le cadre du coup d'État manqué de septembre 2015. À ce stade, on parle encore de projet de loi, mais selon le ministre de la Justice, s'il est adopté par l'Assemblée législative de transition, les personnes concernées devront reconnaître les faits, bien se comporter et faire preuve d'engagement patriotique dans la lutte contre le terrorisme. Wely Diallo.
Les personnes concernées par l'amnistie seront désignées dans un décret à venir. Selon le ministre de la Justice, l'une des conditions sera de manifester la volonté et l'intérêt d'être déployé sur le théâtre des opérations dans le cadre de la reconquête du territoire. Ce dernier a ajouté que cette décision n'est pas pour autant une remise en cause des acquis de l'insurrection de 2014, celle donc qui a mis fin au régime de Blaise Compaoré. Concernant le coup d'État manqué de 2015, un premier procès a eu lieu en septembre 2019, dont les jugements en appel se font toujours attendre. Pour le ministre, la loi d'amnistie permettrait aussi de pallier à la lenteur de la justice et de débloquer la situation. Un juriste burkinabé considère toutefois que cette loi est bel et bien une volonté de réhabiliter les militaires qui sont en prison, car cela revient à cautionner le coup d'État. Ils seront blanchis, réhabilités et même dédommagés, regrette l'homme de droit. En attendant de savoir le contenu exact de ce projet de loi d'amnistie, l'un des avocats des victimes du coup d'État manqué de 2015 explique ne pas comprendre les motivations profondes qui entourent cette mesure.
Wely Diallo, RFI, 13h37 à Kinshasa, l'actualité en RDC, marquée par le renouvellement du mandat de la MONUSCO pour 12 mois supplémentaires. Les casques bleus passeront bien 2025 en RDC. Décision hier soir du Conseil de sécurité des Nations Unies, alors que la force de maintien de la paix a déjà commencé à se retirer du pays, mais c'était sans compter sur la demande récente de Kinshasa à l'ONU de ne pas déclencher la suite de ce plan de retrait. RFI New York, Loubna Anaki.
La résolution du Conseil de sécurité a été adoptée à l'unanimité et prolonge le mandat de la force de maintien de la paix en RDC jusqu'au 20 décembre 2025. Lors de cette réunion hier, les membres du Conseil ont insisté sur leur inquiétude quant à la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. La RDC continue de souffrir de cycles de conflits et de violences persistantes de la part de groupes armés étrangers et nationaux, peut-on notamment lire dans le texte de la résolution. Le Conseil s'inquiète également des tensions persistantes entre la RDC et le Rwanda que Kinshasa accuse de soutenir le M23. Le renouvellement du mandat de la MONUSCO intervient alors que la force a entamé son désengagement du pays et s'est déjà retirée du Sud Kivu. Un retrait réclamé par le gouvernement congolais qui avait demandé un départ rapide avant de plaider pour un désengagement graduel et coordonné. Au dernier des comptes, il restait 14 000 militaires et policiers sur le terrain dans le cadre de la MONUSCO. Cette année supplémentaire devrait permettre de mieux organiser leur départ, même si pour le moment, aucune date n'a été fixée pour un retrait total. Loubna Anaki, New York, RFI.
Et c'est dans ce contexte que Félix Tshisekedi est arrivé tout à l'heure à Brazzaville pour une visite éclair. C'est sa première sortie du pays depuis le dialogue avorté de Luanda en début de semaine avec le Rwanda. Le président congolais doit rencontrer son homologue Denis Sassou Nguesso dans l'après-midi pour un tête-à-tête. Le conflit dans l'Est de la RDC et bien sûr source de tensions entre Kinshasa et Kigali, mais aussi avec Kampala. L'Ouganda a été accusé en juillet dernier par le groupe d'experts de l'ONU d'apporter un soutien aux rebelles, accusation réfutée par Kampala. Mais depuis l'échec du sommet de Luanda le week-end dernier, et alors que le M23 a repris son offensive dans le Nord Kivu, les soupçons de complicité resurgissent, Florence Maurice.
Signe que la tension est montée d'un cran, la ministre congolaise des Affaires étrangères a convoqué le chargé d'affaires ougandais en poste à Kinshasa pour exiger qu'il clarifie, je cite, le positionnement de Kampala au sujet de la guerre en cours et l'état des relations entre les deux pays. En cause, une série de tweets publiés par le général Muhoozi, le chef d'état-major ougandais. Dans ses messages, il menace de s'en prendre aux mercenaires alliés des forces armées congolaises dans le conflit. Or, le général a beau être coutumier des emportements sur Twitter, il a d'ailleurs effacé ses messages depuis. Ses propos ont tout de même alimenté le soupçon d'un soutien ougandais au M23 et à son allié le Rwanda. Car le contexte n'est pas anodin. Depuis dimanche, les rebelles ont repris leur offensive dans le Lubero en direction de Butembo, non loin de localité où est déployée l'armée ougandaise dans le cadre de l'opération Shuja contre les ADF et surtout dans une zone où le M23 n'avait encore jamais pénétré et considéré historiquement comme appartenant à la sphère d'influence ougandaise dans l'Est congolais. L'attitude de l'armée de Museveni face aux rebelles sera scrutée de près dans les semaines qui viennent.
Florence Maurice, nouveau talent, créateur de la diaspora, jeunes espoirs, le monde de la mode africaine a les yeux rivés sur la Centrafrique ce week-end. C'est la fin de la deuxième édition de la Fashion Week de Bangui. Aujourd'hui, place aux jeunes créateurs au stade 20 000 places avant un grand gala et un défilé de clôture demain à l'hôtel Ledger. La promotrice de l'événement, Milka Ketura Kimoto, il voit une occasion idéale pour faire connaître la culture centrafricaine, mais aussi ouvrir les talents locaux à l'international.
Aujourd'hui, les jeunes talents au niveau de la République centrafricaine ont besoin de ces créateurs de la diaspora et également nos invités pour vraiment se frotter de leur culture. Parce que nous, ce qu'on cherche derrière cet événement, c'est une identité culturelle proprement dite pour nous. Et pour le faire, il faut vraiment se mélanger avec d'autres cultures afin de ressortir un truc proprement dit à nous. Les créateurs de la diaspora ont eu la chance de se former également là où ils sont. Je pense que c'est vraiment un plus également pour nos jeunes qui sont ici sur place. Il y a des débouchés. On se sent que la majorité des invités internationaux qui sont là sont des promoteurs culturels. Ils sont également dans des centres de formation chez eux. Donc, c'est pourquoi on les a invités. Donc, il y a un contrat de partenariat afin de permettre à ces jeunes d'aller poursuivre également leur formation en quelque sorte sur la finition, sur l'art plastique dans les différents pays de ces créateurs qui sont ici.
Propos recueillis par François Mazet. On termine ce journal avec du football et le second tour des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations ce week-end. Demain, les sélections locales de la Côte d'Ivoire et du Burkina s'affrontent pour la manche aller. Les deux équipes s'étaient déjà rencontrées dans les mêmes circonstances il y a 2 ans. Les Ivoiriens avaient alors pris le dessus, privant ainsi les Burkinabés d'une participation au dernier championnat en Algérie. À la veille des retrouvailles à Abidjan, les éléphants sont au laboratoire avec leur nouveau coach. Reportage de Molamine Sissavané.
Les 25 éléphants ivoiriens retenus pour cette double confrontation sont à leur avant-dernier entraînement ce vendredi soir à Abidjan.
Quand on a fait une préparation qu'on pense bien ou pas, et puis on peut dire que dimanche, on soit prêt pour l'événement.
Aux manettes, Romaric Ndrikofi, nommé il y a tout juste un mois. En raison du calendrier, il n'a pu faire la préparation qu'il espérait.
Au niveau de l'aspect physique, on n'est pas précis. On essaie de gérer la charge comme on peut. Au niveau de l'aspect mental, on sait que ça va être très difficile. Donc on essaie de préparer les joueurs par rapport à cet aspect de force, de combat, d'agressivité et de l'intensité.
Parmi ces joueurs, le défenseur Landry Zouzou.
On ne connaît pas forcément l'adversaire, mais on a des amis là-bas. Avec qui on a joué en club avant, ici en Côte d'Ivoire. On essaie de voir comment est-ce qu'il se comporte et puis travailler et agir. Notre objectif, c'est de prendre l'avantage ici à Abidjan et terminer le travail à Bamako.
Valider la qualification à Bamako au match retour et aller au CHAN pour prier comme la sélection A à la CAN. C'est ça l'idée, mais le coach Romaric veut y aller par étapes.
On espère faire comme Emes et son staff. Ça passe d'abord par le match de dimanche. Il ne faut pas regarder plus loin, il faut regarder juste dimanche. D'abord faire le match, qu'il faut faire un pas vers la qualif et après on ira à Bamako.
Romaric Ndri et ce joueur avaient en tout cas à leur côté Emers Faye, coach de la sélection A, pour sans doute servir d'exemple et distiller des zones positives. Maud Amine Sissavané, Abidjan, RFI.
Abidjan, où il est midi 44, 13h44 à Paris.
Afrique Midi, Arthur Ponchelet.
Voilà pour le journal. Restez avec nous dans le prochain quart d'heure. Jean-Baptiste Placa nous rejoint pour évoquer le sommet de la CDAO cette semaine et les conséquences de la sortie des pays de l'Alliance des États du Sahel. Et puis on a rendez-vous avec Lucie Bouteloup pour sa chronique du samedi, Un mot, une histoire, où on décortique un mot de la langue française. Mais d'abord, on parcourt la une de Jeune Afrique avec son directeur de la rédaction, François Soudan. Il est au micro de Catherine Potet.
À la une de Jeune Afrique, la perspective de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, c'est encore loin, octobre 2025. Mais ce grand rendez-vous électoral est d'ores et déjà d'actualité car de nombreux inconnus aiguisent la curiosité. Parmi ces inconnus, tout d'abord, l'éventuelle candidature d'Alassane Ouattara pour un quatrième mandat. Bonjour François Soudan.
Bonjour Catherine.
Bien difficile pour le moment de savoir si le président sortant se présentera ou non.
Cette question, vous l'imaginez, tous les Ivoiriens se la posent, mais la réponse risque de se faire encore attendre quelques semaines, voire quelques mois, tant Alassane Ouattara entend rester le maître du temps, le maître des horloges, hein, d'autant que selon ses proches, hein, interrogés par Florence Richard dans le cadre de son article, sa décision ne serait pas encore tout à fait prise. Alors, pour son parti, le RHDP, qui multiplie depuis des mois les appels, les meetings en faveur de sa candidature, ça ne doit faire aucun doute, mais Ouattara se trouve face à une sorte de dilemme, Catherine, il a 82 ans, le souhait qu'il avait émis en 2020 de céder la place à une autre génération, projet auquel il avait dû renoncer suite au décès de son successeur adoubé, hein, Gon Coulibaly, ce souhait tient toujours en principe, sauf que cette fois-ci, aucun dauphin potentiel ne s'impose sans contestation, qu'il s'agisse du vice-président Mélié Koné, de l'ancien Premier ministre Hachi, de l'actuel titulaire du poste Begré Mambé, voire de son frère cadet et ministre de la Défense Tene Birahima Ouattara. Alors d'un côté, il y a le souci de ne pas faire le mandat de trop, de l'autre celui de ne pas faire perdre son camp et de maintenir la stabilité de la deuxième économie d'Afrique de l'Ouest dans un contexte régional, politique, sécuritaire tendu. Ouattara va donc devoir trancher, qu'il le fasse in fine dans le sens de la continuité. Personnellement, Catherine, cela ne m'étonnerait guère.
Voilà pour l'éventuelle candidature d'Alassane Ouattara. L'autre point d'interrogation concerne le PDCI et son nouveau patron, Tidjane Thiam. A-t-il vraiment réussi à s'imposer sur la scène politique ivoirienne ?
Alors disons que celui qui, il y a un an, était encore très peu connu de la majorité des Ivoiriens pour avoir vécu plus de 20 ans à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, il y travaille avec sérieux, avec assiduité, à la tête du premier parti d'opposition depuis décembre dernier. Tidjane Thiam tente de mobiliser la base, il a restructuré la direction du PDCI, il multiplie les déplacements à l'intérieur du pays, il fait tout pour être désigné par sa formation candidat à la présidentielle. Deux obstacles, deux problèmes restent encore pour lui à résoudre. Le premier est purement formel, il va lui falloir renoncer d'ici au mois d'avril à sa nationalité française. Et le second est d'ordre politique, hein. Il est posé par l'existence d'au moins une autre candidature issue du PDCI, celle de l'ancien ministre du Commerce Jean-Louis Billon, lequel s'appuie sur les frustrations engendrées chez certains caciques du parti par l'ascension météoritique de Tidjane Thiam. Jusqu'ici, les médiations entre ces deux personnalités n'ont pas fonctionné, Catherine.
Enfin, François Soudan, il y a la gauche, plutôt mal en point. Sa figure de proue est l'ancien président Laurent Gbagbo. Mais une question s'impose, parviendra-t-elle à se retrouver autour d'un candidat commun ?
C'est là toute la question, un candidat unique étant la condition sine qua non pour cette famille politique si elle veut avoir une chance d'exister au second tour de la présidentielle. Tout le monde est donc d'accord sur le principe, mais cette famille, elle n'est pas unie. Il y a encore beaucoup de ressentiments, de brouilles, de querelles d'ego. Pour l'instant, trois candidats ont été investis par leurs partis respectifs. Pascal Affine-Guessant, le nouveau patron du FPI, Simone Ehivet Gbagbo, l'ex-épouse de Laurent Gbagbo et Laurent Gbagbo lui-même, plus un quatrième, Charles Blégoudé, qui a fait connaître son intention de s'y présenter. Cela étant dit, pour ces deux derniers, Gbagbo et Blégoudé, il y a encore loin de la coupe aux lèvres, puisque condamné et non amnistié, il demeure pour l'instant inéligible, tout comme d'ailleurs Guillaume Soro, qui lui vit en exil, Catherine.
Merci François Soudan. Cet article sur la Côte d'Ivoire est à retrouver sur jeuneafrique.com.
Et cet entretien de François Soudan par Catherine Potet est à retrouver sur l'application RFI Pure Radio. Midi 49 en temps universel, on fait le point sur les principaux titres de ce samedi 21 décembre. Nous ne laisserons pas passer ceux qui veulent semer la haine. Les mots d'Olaf Scholz tout à l'heure. Le chancelier allemand s'est rendu à Magdebourg au lendemain de l'attaque sur un marché de Noël. Une voiture a foncé sur la foule hier soir et le bilan s'est alourdi. 5 morts et plus de 200 blessés. Un homme de 50 ans a été arrêté hier soir. Il est originaire d'Arabie Saoudite et ses motivations restent troubles. Son profil le désigne comme un sympathisant d'extrême droite. Ce suspect présumé est islamophobe, selon le ministre allemand de l'Intérieur. Israël frappé par un tir des rebelles Houthis la nuit dernière. Un projectile s'est écrasé dans le sud de Tel Aviv. Il a fait 16 blessés légers. Des tentatives d'interception ont été menées sans succès, reconnaît l'armée israélienne. La guerre se poursuit aussi en Ukraine. Ce matin, des drones ukrainiens ont visé des immeubles de la ville de Kazan, en Russie, à 1000 km de la frontière. Aucune victime n'est à déplorer sur place, selon les autorités, mais l'aéroport de la ville est provisoirement fermé. Et puis en France, après 12 ans de retard et des polémiques en cascade, l'EPR de Flamanville a été raccordé au réseau électrique national. C'est le plus puissant réacteur nucléaire de France. Un grand moment pour le pays, a réagi ce matin le président Emmanuel Macron. Ce nouveau réacteur doit alimenter en électricité environ 2 millions de foyers. Comme tous les samedis, on retrouve Jean-Baptiste Placa qui revient pour nous sur un événement marquant de la semaine. Jean-Baptiste, aujourd'hui, alors que la CEDEAO tente de retenir dans ses rangs le Burkina Faso, le Mali et le Niger, le chef de la junte au pouvoir à Niamey a rejeté cette semaine toute main tendue, insistant sur le caractère irréversible de leur décision. Est-ce à dire que les perdants dans cette rupture sont finalement ceux qui demeurent dans la communauté ?
Il n'y aura pas de gagnants et les plus gros perdants seront bien les peuples des États qui claquent la porte. C'est justement parce que de telles décisions sont graves de conséquences qu'elles devraient demeurer le privilège de leaders ayant l'onction du suffrage universel et pas de putschistes qui assimilent leur orgueil personnel à l'honneur de leur patrie. Entre ces États sahéliens et leurs voisins immédiats, l'interdépendance est telle que les considérations d'amour propre ne devraient pas y prévaloir. On ne quitte pas une organisation parce qu'elle vous applique les textes qui la fondent. Après tout, il y a des règles dans toute communauté. Même la mafia a son code d'honneur que l'on n'enfreint pas impunément. Certes, pour avoir trop souvent appliqué à la carte ses propres règles et principes, la CEDEAO s'était beaucoup discréditée aux yeux des populations ces dernières années. Mais cette rupture est une diversion qui rejaillira sur tous les citoyens de ces États et leur diaspora importante dans la sous-région.
Jean-Baptiste, ces trois États annoncent dispenser de visa les ressortissants des pays de la CEDEAO, libres d'entrer, de circuler et même de s'établir dans l'espace de leur confédération. Est-ce qu'on peut parler d'une preuve de bonne volonté ?
C'est surtout une manœuvre grotesque qui trahit l'inconséquence de leur démarche. Pourquoi n'applique-t-il donc pas ces exemptions à toute l'Afrique ? Une concession aussi ciblée vise surtout à quémander par la force une réciprocité. Ils anticipent la réprobation de leurs concitoyens qui ne manqueront pas de leur reprocher cette rupture lorsqu'elle commencera à leur compliquer singulièrement l'existence. Alors, plutôt que d'assumer leur méprise, ces dirigeants accuseront les voisins d'en vouloir à leur peuple. Lorsque l'on se saisit arbitrairement du destin d'un peuple, la décence élémentaire commande de préserver ses intérêts réels et cette décision n'est pas dans l'intérêt de ces peuples. Les discours rejetant tout leur malheur sur des ennemis extérieurs, des traites internes ou de soi-disant renégats ne suffiront pas à la justifier. Ils lasseront d'autant que ces militaires s'avèrent incapables d'améliorer la sécurité et les conditions de vie de leur peuple. Plus de 4 ans après le renversement d'Ibrahim Boubacar Keïta, près de 3 ans après le renversement de Roch Marc Christian Kabore et bientôt 1 an et demi après le coup d'État qui a renversé Mohamed Bazoum, ni les Maliens, ni les Burkinabés et encore moins les Nigériens ne vous diront qu'ils sont un peuple heureux, en sécurité, à l'abri des privations et de la vie chère. Les nouveaux riches en treillis que l'on voit parader dans les capitales ne sont pas le meilleur indicateur du bonheur de ces peuples. Ceux qui ont cru à ces coups d'État réalisent avoir fait un mauvais calcul qui ne fera qu'empirer après la rupture avec la CEDEAO.
Et pourtant, la CEDEAO, vous l'avez souvent dit ici, Jean-Baptiste, est discréditée.
Sans aucun doute, et pour espérer redorer un blason durablement terni, elle devra se réinventer. Mais hormis le fait géographique, le seul dénominateur commun entre ces trois pays enclavés est d'être dirigée par des putschistes, un peu comme une alliance de parias. Elle aurait été plus crédible si elle émanait de dirigeants dûment élus. Et puis, lorsque Rawlings prenait le pouvoir au Ghana en 1979 puis en 1981, ses concitoyens avaient une idée claire de ce qu'ils pensaient et ce dont ils rêvaient pour son peuple. Sankara, en 1983, avait un discours d'autant plus clair qu'il n'était emprunté à personne. Mais ici, on se demande quelle peut bien être la vision des putschistes d'aujourd'hui. L'on n'entend que des tâtonnements dans leurs discours truffés d'extraits picorés chez Rolling, Sankara ou même Sékou Touré. Et c'est bien insuffisant pour des peuples qui ont déjà donné et que l'on voudrait à présent persuader du bonheur de vivre coupé de leur environnement naturel.
Merci Jean-Baptiste Placa, on vous retrouve samedi prochain dans Afrique Midi. Avant de refermer cette demi-heure d'information et de retrouver Gilles Moreau pour le journal, on se quitte avec un mot, une histoire. Lucie Bouteloup interroge des amoureux de la langue française qui parlent d'un mot qui leur est cher.
C'est un mot qui appartient à un registre plutôt soutenu, qui n'est pas connu de la majorité des francophones et qui permet de montrer une certaine culture quand on l'utilise.
D'après vous, quel est le mot qui a le plus marqué 2024 ? Les éditions du Robert ont dévoilé cette semaine le top 10 des mots les plus consultés sur le site de leur dictionnaire en ligne. Alors évidemment, j'ai voulu savoir lequel arrivait en tête du classement et j'ai posé la question à Géraldine Moinard. Elle est lexicographe et c'est la directrice de rédaction aux éditions du Robert. Attention, roulement de tambour, le grand gagnant est...
Un mot, une histoire, Lucie Bouteloup.
Alors ce mot, c'est hubris. C'est très rattaché à l'antiquité grecque. C'est l'orgueil démesuré qui va pousser à l'excès et qui souvent entraîne une punition divine. Parce que faire preuve de trop d'orgueil, c'est se mettre à l'égal des dieux. Et ils n'aiment pas ça du tout. Donc c'est un orgueil qui entraîne la perte de la personne qui est orgueilleuse. Et puis de manière générale, aujourd'hui, l'hubris, c'est simplement l'orgueil démesuré, l'excès.
Comment est-ce que vous expliquez le fait que ce mot ait été très recherché cette année ?
Alors ce mot est très apprécié des médias depuis plusieurs années, on le voit beaucoup, mais cette année en particulier, sans doute parce qu'il y a un contexte qui s'y prête, on le retrouve d'abord en juin, au moment de la dissolution de l'Assemblée nationale, et en particulier le 7 juillet, le jour du second tour des législatives, donc très employé au sujet d'Emmanuel Macron, notre président. On le retrouve aussi beaucoup sur la deuxième quinzaine d'octobre, au moment de la campagne électorale américaine, et là, très associé à Donald Trump. Et puis, tout au long de l'année, on le voit aussi associé dans la presse à beaucoup de personnalités, en particulier Benjamin Netanyahu ou Elon Musk.
Alors, ce mot, c'est un mot qui est assez rare, qui appartient à un registre soutenu. Qu'est-ce que ça dit de la personne qui l'utilise ?
Ça montre un peu d'élitisme. Il y a une volonté des personnalités, en particulier politiques, de faire du bon mot. De Gaulle le faisait en son temps, Emmanuel Macron le fait beaucoup quand il parle de poudre de perlimpinpin, de carabistouille. Il prend un mot rare et ça marque les esprits, on en parle beaucoup. Et puis comme ça, on s'intéresse aux mots plutôt qu'au reste du discours.
Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez me donner un exemple de phrase dans lequel on pourrait l'utiliser ?
Alors, des phrases de tous les jours, c'est pas évident parce que vous allez tout de suite paraître un petit peu pédant, je pense, si vous utilisez hubris. Mais on a beaucoup d'exemples de gros titres d'articles de presse. Je peux vous donner l'exemple. La dissolution par Emmanuel Macron, hubris présidentiel, calcul politique ou esprit gaullien.
Est-ce que ça vous a étonné quand vous avez découvert que c'était le mot qui arrivait en tête des recherches ?
Oui, c'était plutôt étonnant parce que c'est un mot rare et c'est pas la préoccupation, on va dire, du commun des mortels. Et en même temps, c'est un mot intéressant parce que c'est une reprise directe du grec ancien. C'est pas si fréquent, donc c'est assez agréable de voir aussi des mots rares qui sont ressuscités, qui reprennent vie. Alors, on ne sait pas pour combien de temps. En général, il y a un mot qui c'est un peu l'effet de mode et puis on passe à autre chose. Après, ce mot pourrait durer. L'orgueil démesuré, la folie des grandeurs, c'est quelque chose quand même qui est assez symptomatique de l'époque. Donc, on peut supposer qu'on aura encore besoin du mot un certain temps.
Selon le site Robert Dico en ligne, hubris est un nom féminin qui désigne un sentiment d'orgueil qui pousse l'être humain à la démesure et entraîne sa perte.
C'était un mot, une histoire.
Lucie Bouteloup pour un mot, une histoire à retrouver sur RFI.fr. Et c'est ainsi que s'achève cette demi-heure d'information africaine, préparée et réalisée ce midi avec Benoît Raymond, Cécile Périard et Karine Franck. Merci à eux et merci à vous de nous avoir écoutés. L'actualité africaine revient à 18h30, temps universel. D'ici là, dans une minute, un nouveau journal sur RFI.
Tout à l'heure sur RFI.
Écho d'ici, écho d'ailleurs, Bruno Faure.
Nous donnons la parole à 5 jeunes journalistes africains spécialisés dans l'économie. Basés à Dakar, Conakry, Abidjan, Cotonou et Kinshasa, ils nous font revivre 2024. Les bouleversements au Sénégal, la crise entre l'AES et la CDAO, les défis miniers et énergétiques.
Écho d'ici, écho d'ailleurs,
avec la Banque Ouest-Africaine de Développement.
Tout à l'heure à 23h10 TU sur RFI.
L'épopée des musiques noires.
Né en décembre 1954, le mensuel Jazz Magazine est devenu la référence historique des musiques héritées de la culture afro-américaine. Depuis sa naissance, il y a 70 ans, la rédaction a conservé ce désir d'être le prescripteur du temps présent. Son directeur, Edouard Renker, célèbre avec nous cet anniversaire aux côtés du musicien malien Pedro Kouyaté.
L'épopée des musiques noires, Joe Farmer.
Tout à l'heure, à partir de 13h30 TU.
RFI.